France Inter, le 7-9, intervenez.
Avec des auditeurs qui nous laissent des messages et nous appellent au standard au 01 45 24 7000. Question qui arrive très vite, qui est arrivée assez vite dans le cours de notre entretien, Jean-Michel Ayat. Carlette de région parisienne, pourquoi Marc Trévidic, spécialiste de l'antiterrorisme, a-t-il été nommé juge aux affaires matrimoniales à Lille ?
Alors, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il y a peut-être une polémique que l'on peut éteindre sur la situation de Marc Trévidic, que je connais bien. Je pense que c'est un collègue qui est atteint par la limite prévue par la loi des 10 ans. Je pense que c'est une règle qu'il faut maintenir parce que au-delà de 10 ans, on constate souvent que le dynamisme s'émousse, qu'on devient propriétaire de son poste et qu'on se fossilise quelque part. Mais pour autant, on n'est pas perdu pour le traitement des affaires antiterroristes. Pourquoi ? Parce qu'après l'instruction, il y a le siège correctionnel et un bon juge d'instruction comme Marc Trévidic peut très bien devenir président d'une chambre correctionnelle spécialisée en matière de terrorisme. Mais s'il réussit dans le traitement des affaires correctionnelles, il peut devenir ensuite président de cour d'assises et juger des attentats terroristes. Donc, on peut faire toute une carrière en matière terroriste et, en l'occurrence, c'est parfaitement ouvert pour Marc Trévidic. Je dirais simplement qu'il y a une petite chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que maintenant, il faut être un peu plus discret. Le star system, si je puis dire, c'est moins en vogue à l'heure actuelle, et parce que je pense que l'efficacité passe vraiment par la discrétion.
Donc vous avez des juges antiterroristes qui travaillent de façon collégiale et anonyme.
En équipe, très soudés, très efficaces et très solidaires.
Et sans plus de stars.
Je pense que c'est préférable. Et je viens de lire ce matin un article dans Le Parisien. Je constate que au parquet de Paris, il y a exactement ce même souci de discrétion. Et je ne pense pas qu'on puisse faire un procès en inefficacité au parquet de Paris non plus.
Voilà, pour Marc Trévidic, c'est fait. Pas d'engorgement de la justice antiterroriste, dites-vous, relève Pierre Alonso qui nous a écrit. Et pour les assises spéciales, demande-t-il. Donc on en parlait tout à l'heure, les procès d'assises spéciales.
Oui, là, il va y avoir indiscutablement un embouteillage. C'est clair que c'était quelque chose qui n'a pas pu être anticipé. Donc il faudra indiscutablement des moyens supplémentaires parce que 2 ans de plus de procès, c'est très lourd. Et c'est pour ça que je milite pour cette réforme de la composition de la cour d'assises. Je me permets de dire, Monsieur Cohen, également une chose importante, c'est que à compter du 2 janvier 2017, c'est-à-dire grâce aux moyens que j'ai pu obtenir, on va mettre en place à Paris un circuit court pour le traitement des affaires de terrorisme sans passer par la case instruction. C'est-à-dire que dans des enquêtes qui sont rapidement bouclées, eh bien, notamment la consultation de sites djihadistes pour des gens qui tiennent des propos très structurés qui relèvent de l'apologie du terrorisme, pour des infractions commises en détention et qui ont un lien avec le terrorisme, on pourra traiter ces affaires dans le cadre d'un circuit court, c'est-à-dire une enquête et qui va directement devant le tribunal, éventuellement sous la forme de la comparution immédiate. La grande nouveauté, c'est que ça n'ira pas à la chambre habituelle des comparutions immédiates, mais à la chambre spécialisée en matière de terrorisme, c'est-à-dire que même dans ce cas d'urgence, ce seront bien des juges spécialisés qui traiteront ces affaires-là. Et ça fait, j'ai eu l'accord écrit du bâtonnier de Paris, la vice-bâtonnière de Paris, pour ce dispositif. C'est-à-dire que là, on peut avancer de manière coordonnée, siège, parquet, défense.
Quid des demandes d'indemnisation des victimes, et notamment des victimes indirectes du terrorisme, puisque ces demandes-là sont de plus en plus nombreuses, Jean-Michel?
C'est vrai que j'ai été extrêmement marqué par les témoignages, à la fois de ceux qui ont été dans la salle du Bataclan ou lors de l'attentat de Nice et qui se demandaient s'ils allaient survivre à l'horreur, et puis tous ses proches, ses frères, ses mères, ses sœurs, qui ne savent pas ce que sont devenus leurs proches. Et je pense qu'on ne peut pas du tout écarter d'un revers de main les propositions qui sont faites par des avocats du barreau de Paris. Ma conviction, c'est qu'il faut véritablement créer un juge chargé de l'indemnisation des victimes d'infractions terroristes. J'ai proposé une réforme après avoir mis en place un groupe de travail au DGI de Paris, et j'ai reçu pas plus tard qu'avant-hier le plein accord de la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Madame Méadel. Donc c'est pour moi un encouragement fort à persévérer dans cette voie. Je pense qu'il y a des interrogations au ministère de la Justice. Est-ce qu'on ne va pas judiciariser l'indemnisation des victimes victimes, j'aurais tendance à dire, et alors, allons-y, je pense que c'est très naturel que des victimes ou des victimes par ricochet aient accès à un juge dans un dossier aussi lourd et aussi chargé d'émotions.
Mais ça doit permettre de raccourcir les délais, hein, c'est ça l'objectif.
Oui, je suis convaincu parce que le juge d'instruction serait recentré sur sa mission, à savoir identifier les enteurs, les complices, les commanditaires et les mobiles profonds de tous ces actes.
Alors, un internaute nous reprochait tout à l'heure, mais enfin, il peut toujours nous le reprocher, que sur les 10 premières minutes d'interview, mais c'est vrai pour la suite, uniquement des questions sur l'antiterrorisme, dit-il, c'est révélateur. Il faut pas oublier ce que j'appelais tout à l'heure la justice du quotidien. Avant de parler des lacunes ou des manques ou de ce que vous pourriez espérer pour améliorer cette justice-là, des réformes qui sont en cours et qui pourraient changer les choses, et notamment le divorce par consentement mutuel sans intervention d'un juge.
Alors, le divorce par consentement mutuel, si dès que la réforme sera promulguée, c'est 3000 jugements en moins au TGI de Paris.
3000 rien qu'à Paris.
Il y a 3000 jugements de consentement de divorce par consentement mutuel au TGI de Paris. Donc, cela libère tout simplement directement un poste de juge. Est-ce que cette réforme est bien pensée? J'affirme que oui. Pourquoi? Parce que chacun des époux aura un avocat et je ne vois pas en quoi un avocat braderait les intérêts de l'époux qu'il défend et en quoi les droits de l'enfant seraient bafoués. En l'occurrence, à l'heure actuelle, en matière de consentement mutuel, le juge n'entend pas les enfants quand il y a un divorce d'accord. Donc je pense que c'est une réforme qui va plutôt dans le bon sens. Après tout, les notaires établissent des contrats de mariage. On peut bien imaginer que des contrats de mariage, ça puisse se faire par acte d'avocat et ensuite reçu par un notaire. Moi, je suis favorable et je dis que c'est exactement la piste qu'il faut explorer dans tous les domaines, que le juge intervienne lorsqu'il y a un conflit. Voilà.
Le Conseil constitutionnel, c'est
trancher un conflit.
Ouais, le Conseil constitutionnel doit encore se prononcer sur cette réforme.
Absolument.
On attend sa décision, je crois. Jean-Philippe Deniaud, je parle sous votre contrôle d'une heure à l'autre.
Oui, avant demain, je pense, pour le Conseil constitutionnel. Quels sont les autres domaines dans lesquels on peut alléger la tâche du juge?
Je pense qu'il faut... Il y a eu des réformes très importantes, mal connues du grand public, concernant les personnes qui sont atteintes de... les personnes vieillissantes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, notamment, et il y a des dispositifs qui sont mis en place qui permettent d'alléger la tâche du juge lorsqu'une famille se met d'accord pour désigner quelqu'un qui va être habilité pour protéger la personne et gérer son patrimoine. Ce sont des dispositifs très intelligents qui concernent des millions de Français, parce que dans toutes les familles, il y a des problèmes liés à la maladie d'Alzheimer, et là, vraiment, on l'a à peu près fait une estimation, ça allégerait la charge des juges d'à peu près 16% des juges et tutelles. Donc il faut le faire, je pense qu'il faut aller dans cette voie-là. Je pense qu'il faut également simplifier les règles de procédure. Elles sont trop lourdes, très compliquées, chronophages. À l'heure où nous vivons, est-ce qu'on a encore besoin d'une lettre recommandée avec accusé de réception qu'on classe dans un dossier et qu'on ne peut pas en venir véritablement à généraliser la notification par courrier électronique? On travaille tous avec des mails. C'est ces pistes-là vers lesquelles il faut aller et surtout simplifier. Je pense que vous voyez tous des affaires importantes dont vous vous dites « mais comment, quand ça va venir en jugement ?» C'est parce qu'il y a des batailles procédurales qui double la durée d'instruction de ces affaires. Il faut simplifier.
Mais quand on simplifie, ça fait aussi parfois, souvent même, des mécontents, des gens qui pensent que ça ne rendra pas la justice. Je pense notamment à cette mesure très contestée de la loi Sapin, ce qu'on appelle la loi Sapin 2, c'est-à-dire la transaction pénale qui permettrait à des entreprises de payer des amendes sans plaider coupable de faits qui lui sont reprochés.
Alors, en fait, je pense qu'on est maintenant dans un dispositif qui est en train de bien s'organiser. Lorsque des entreprises qui travaillent à l'international sont convaincues de corruption, c'est très compliqué pour elles de plaider coupable, parce que si l'entreprise plaide coupable, en réalité, elle est barrée pour l'accès au marché public et elle est complètement exclue du marché américain. Or, donc, on est dans « n'avoue jamais ». Bien. Pour autant, c'est pas satisfaisant comme système, et c'est évident qu'il faut permettre à une entreprise, et je trouve que le dispositif est intelligent, d'adopter un système anticorruption qui va être validé par une agence qui va vérifier que ce travail est fait, et après tout, qu'elle paye une amende forte de plusieurs milliards d'euros, je ne suis pas convaincu que ça disqualifie les choses. J'aurais tendance à dire qu'il faut bien faire un distinguo entre la personne morale, la société et ses représentants, ses dirigeants, les dirigeants qui ont sont allés sur le terrain de la corruption devront répondre de leurs actes devant un tribunal. Une personne morale, elle est violentée par ses dirigeants.
Mais c'est bien une façon, une voie américaine de traiter
Quels sont les résultats en France de la lutte contre la corruption internationale en 10 ans, une affaire jugée. Une affaire jugée. Donc la justice ne sait pas faire. Alors, il faut être humble et admettre qu'il faut peut-être aller vers des dispositifs un peu plus efficaces.
Jean-Michel Ayat, président du tribunal de grande instance de Paris, vous restez avec nous. On va accueillir Augustin Trapenard dans un instant avant de retrouver Nicole Ferroni.